Existe-t-il des hommes de bonne foi, des hommes droits et loyaux qui sauront nous conduire au paradis promis? Existe-t-il cela? Nous avons vu de nombreux candidats. Ils semblaient sûrs d'eux et pleins de foi. Ils nous ont promis de nous conduire vite au paradis promis. Et maintenant, où sommes-nous? Je ne sais pas où vous êtes, mais moi je sais où je suis. Je suis dans un trou de rat. Bon, c'est vrai, il y a l'électricité et le téléphone. Ça sûrement je leur dois. Mais après quoi? Quoi? Je demande quoi? Quoi et pourquoi nous avoir promis tout ça? Vous aviez promis l'électricité, c'est vrai, je l'ai. Et le téléphone fonctionne. Mais à quoi bon, ça n'a pas changé les conversations. Alors quoi? Quoi? À quoi bon tout ça? Tout ce boulot pour ça? Tous ces espoirs, toutes ces attentes. Ça ne m'empêche pas d'attendre encore un coup de téléphone de celle que j'aime. Mais ça, existe-t-il des hommes droits et loyaux qui pourraient faire quelque chose pour moi? Pour que celle que j'aime m'appelle, je suis prêt à aller jusqu'au Soviet suprême. Et s'il existe là-bas des hommes droits et loyaux qui peuvent faire quelque chose pour la décider à m'aimer, qu'ils le fassent, je vous en supplie. Faites-le. Faites-le. Ou alors quoi? Quoi? À quoi bon parler et promettre si vous ne pouvez même pas faire ça? À quoi bon promettre le paradis si moi je ne peux même pas avoir le petit bout de paradis tout simple? C'est vrai, on me l'avait pas promis celui-là. Et de celui-là, je me contenterai bien. Et j'irai devant le bâtiment du Soviet suprême avec une bouteille d'essence et un message écrit sur un bout de papier chiffonné. Je lirai le message à voix au-dessus, il sera écrit: je t'aime, 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 je t'aime. Et ensuite, une fois mon message lu, le papier chiffonné, je l'enflammerai, je verserai l'essence sur moi. Et je mettrai le papier dans ma bouche qui n'a servi à rien. qui n'a pas plus servi que vos promesses. Ce papier-là, il m'explosera. Si le soviet suprême ne peut pas m'amener celle que j'aime, un bout de papier chiffonné non plus ne peut pas la ramener à moi, même si dessus y a écrit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ce papier chiffonné enflammé mis dans ma bouche pleine d'essence, il m'explosera. Et certains, certains croiront, certains, que j'ai fait ça pour des raisons politiques.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, c'est l'émission Jeudi Noir. Aujourd'hui consacré à Jean-Louis Coste au travers d'un ouvrage qui s'appelle L'art brutal de Jean-Louis Coste, et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui son auteur Léo Guy de Narcy, qui va nous parler un petit peu de son ouvrage et puis de ce personnage un petit peu connu quand même, mais on va faire comme si personne ne le connaissait et le représentait depuis le départ. Bonsoir Léo.
Bonsoir.
Alors, Jean-Louis Coste, on va commencer par un petit topo biographique, simplement pour resituer le personnage, et puis on entrera un peu plus dans l'œuvre elle-même par la suite. Alors, Jean-Louis Coste, c'est un monsieur maintenant qui a une soixantaine d'années, donc il est né en 1954.
Il ne va pas le vieillir.
Voilà, 59 ans. Il ne le fait pas du tout. Et donc, ce monsieur est un musicien, performeur... Je ne sais pas comment le définir exactement. Il a fait beaucoup de musique, de théâtre, de vidéo, des talents multiples. Il a touché un peu à tous les médias pour faire passer son, je veux dire, message. Non, il ne présente pas ça comme un message, mais c'est ce qu'il a à dire. Donc, historiquement, on va refaire un petit peu sa jeunesse à aujourd'hui. Avant ses 30 ans, il jouait dans différentes formations rock, assez classiques, en tant que clavier. Formation plus ou moins rock hippie qui lui correspondait pas trop, et d'après ses dires il était un petit peu mal vu et puis il se sentait un peu à l'étroit au sein de ces groupes là et il a rapidement décidé de faire de la musique en solo, de faire vraiment ce qui lui tenait à cœur. Alors il faut savoir que Jean-Louis Coste a été le premier français à sortir un vinyle autoproduit, donc en 1986.
C'est 86, ça, ouais.
86, qui s'appelait
L'art c'est la guerre.
L'art c'est la guerre, voilà. Donc un vinyle difficilement trouvable qui a dû être tiré à 1000 exemplaires. Voilà, et puis depuis, il a sorti une centaine d'albums.
Au bas mot.
Voilà, sous forme essentiellement de CDR maintenant, au départ sous format cassette. Donc ce qu'il a fait, on va en écouter des extraits. On vient d'en écouter d'ailleurs un extrait qui s'appelait « Aux portes du Soviet suprême », je ne sais plus le titre exact, quelque chose comme ça. Donc c'était une belle chanson d'amour tirée du CD « Sorcière », un CD consacré à Darlene, un album entièrement consacré à l'amour qu'il portait à Darlene, puisque c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, donc une spéciale Coste.
Il fallait célébrer ça en bonne et due forme.
Voilà, une très, très jolie chanson.
Alors, c'est entré en matière.
Celle-là, elle passe. Elle est assez soft, écoutable. Alors juste, on prévient les auditeurs que s'ils sont un peu chastes et ont des oreilles un petit peu sensibles, il peut y avoir des morceaux un petit peu plus difficiles d'écoute. Peut-être éloigner un peu les enfants, si vous ne voulez pas que vos enfants entendent des gros mots, parce qu'ils disent des gros mots des fois, voilà. Donc le petit historique, là, fin de la parenthèse sur le morceau d'introduction. Donc Jean-Louis Coste, vers le milieu des années 80, beaucoup fréquenté les établissements phonographiques de l'Est pour les Parisiens d'un certain âge qui écoutent de la musique expérimentale, n'ont pas pu échapper à ce lieu qui était le lieu de référence sur les musiques bizarres et très plus qu'underground. Et donc forcément Jean-Louis Coste a trouvé son public dans ce genre de lieu. C'est là qu'il vendait ses premières cassettes enregistrées à la maison avec les pochettes faites à la main. Et ensuite il est passé au format CDR quand ça a été possible d'en faire à la maison de manière facile. Et puis les EPE, établissement phonographique de l'Est, possèdent également une petite cave en sous-sol où il s'est produit plusieurs fois. entre deux groupes de free jazz et de musique bizarre du monde entier. Il a fait pas mal de shows là-bas.
De l'Indus aussi.
Beaucoup
c'était
d'Indus.
Un grand lieu de l'Indus.
Tout à fait.
De cette période.
Et alors Coste a toujours, s'est toujours démarqué de tous ses courants musicaux. Bon, il était obligé de participer à une scène s'il voulait se produire, vendre ses cassettes. Il était obligé d'aller dans des lieux. Mais il s'est toujours senti un petit peu à part. Et effectivement, on va entendre plusieurs extraits de sa musique. Ça ne ressemble pas à grand chose des différents grands courants musicaux qu'on a pu connaître à cette époque-là.
C'est vrai que c'est pas exactement là-dedans, dans un style ou plutôt dans un rapport à la musique, plutôt dans une démarche musicale qu'on va retrouver le travail de Coste. Et c'était en partie d'ailleurs ce qu'il fallait faire, enfin ce qu'il a commencé ce qui était à l'origine en fait du travail autour de ce livre aux éditions Exposition Radicale, avec cette idée de retrouver une part des archives et retrouver aussi une part du travail de cette forme d'indépendance. Faut voir que la présentation que tu viens de faire, c'est pas exactement par là que moi j'ai pu accéder au travail de Coste. D'abord parce que j'étais pas vraiment en âge de traîner aux EPE, même loin de là. C'est plutôt des personnes qui témoignent de cette période-là, que ce soit Lisa Carver ou encore Jean-Claude Moineau, qui eux ont participé effectivement aux EPE et à cette scène musicale à l'époque. Mais la démarche était d'abord une démarche d'archivage et un retour en fait sur les origines du travail de Coste pour ce travail. Un travail qui a duré 4 ans, avec 4 ans avec Coste et avec les collaborateurs, justement pour arriver en fait à cet ouvrage et à ce propos qui va en ressortir.
Voilà, on va parler un petit peu plus en détail justement des différents collaborateurs de ce livre. Tu as cité Lisa Carver, connue également sous le nom de Lisa Suckdog, et Yann Kerninon, donc ont participé à ce livre également Sophie Diaz, Jean-Claude Moineau que tu as cité. Et non, je n'oublie personne, mais il y a même un petit texte de Coste lui-même à la fin du livre. Alors juste petite présentation physique de l'ouvrage. Donc, il se présente sous la forme d'un format assez moyen avec énormément d'illustrations. Donc, ça constitue à peu près les trois quarts. Donc, deux tiers de l'ouvrage. Alors, au début, bon, un livre de photos, ça ne m'attirait pas plus que ça. Et c'était une très, très bonne surprise, puisqu'on a des photos non seulement d'une excellente qualité, pleine page, mais tant pour ceux qui connaissent Coste, qui apprécient Coste, que pour ceux qui souhaiteraient le découvrir. Ça fait entrer dans son univers vraiment de plein pied, avec à la fois des photos de show, des tracts, des scans de ses premières cassettes faites à la main, différents objets, alors ça c'est assez intéressant, des objets utilisés lors de ces spectacles. On va parler un petit peu justement des différentes formes que prennent sa manière de s'exprimer, et c'est très très complet. C'est vrai que connaissant assez bien Coste, dans ce livre on retrouve complètement son univers, et je pense que ça peut vraiment intéresser tant les fans de la première heure, comme ceux qui le découvrent que plus récemment, ceux qui, suite à cette émission, souhaiteraient en savoir un petit peu plus. Alors, juste par rapport à l'historique, bon là, c'était vraiment un peu les départs, avec les EPE, qui ont ensuite fermé, je ne sais plus, début 90, quelque chose comme ça. Et donc, il a continué de se présenter dans le monde entier, de présenter ses spectacles, qu'il appelle souvent porno, opéra social, sociaux même au pluriel, dans le monde entier, donc en France évidemment, en Allemagne beaucoup, il a tourné beaucoup en Asie du Sud-Est, et puis aux États-Unis, hein, plusieurs tournées aux États-Unis, donc avec des shows chantés soit en anglais, avec même certaines parties en japonais, qu'il a sorti également un CD tout en japonais, chanté un petit peu de manière, comment dit-on, juste en copiant les sons, le verbe m'échappe. Et puis en allemand également, il a sorti des vinyles en allemand. Voilà, donc c'est quelqu'un de très prolifique et qui a souhaité aussi s'exprimer devant un grand, grand nombre de publics, à la fois en live, sur scène, et puis dans ses disques et ses vidéos.
Bah oui, enfin ce que t'expliques, c'est il y a deux choses bien particulière dans ce que tu présentes qu'on peut ressortir, c'est premièrement l'aspect international de la carrière de Coste. Et ça, dans l'ouvrage, on peut prendre ça d'abord comme effectivement étant ce serait un artiste qui s'exporte. Mais pas uniquement, parce qu'en fait, historiquement, du point de vue de la diffusion artistique, ça apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on découvre comment cette scène du do-it-yourself, à un moment, quand Internet arrive, se retrouve complètement unifiée et globalisée un peu à l'échelle du réseau. C'est-à-dire que tout d'un coup, des gens qui faisaient des choses dans leur cave tout seuls découvrent que c'est quand même super parce qu'en fait, il y a 5 millions de personnes qui font la même chose aux quatre coins du monde et que tout d'un coup, on peut échanger des cassettes. Lisa Carver, dans son texte, revient très bien sur cette diffusion du travail de Coste. Comment est-ce qu'elle l'a rencontré par ce biais-là aussi?
Voilà, du mail art.
De
pseudo mail art par rapport
pseudo mail art, pas tellement pseudo, c'est-à-dire que ce serait du mail art de musique de musique à ce moment-là, parce qu'ils vont échanger des cassettes, ils vont se draguer par cassette interposée. Il y a aussi un échange qu'on a avec Jean-Claude Moineau dans notre entretien où il revient justement sur cette sphère de séduction que peut avoir la musique de Coste ou la manière qu'il a de la pratiquer. Et donc en découvrant que sur les 5 continents, des gens ont effectivement ce rapport à la musique et ce rapport au travail artistique, ça permet une diffusion et la création d'un réseau qui amène par la suite à des rencontres musicales, des échanges musicaux et aussi à des tournées, une façon de s'exporter. Et on voit encore aujourd'hui comment est-ce que ce système de réseau, ces réseaux internationaux fonctionnent, comment est-ce qu'on va retrouver sur certaines scènes à l'étranger, que ce soit à New York ou à Tokyo, certains artistes, justement par le biais de ces échanges-là aussi.
C'est vrai que c'est assez difficile pour les plus jeunes de s'imaginer comment c'était à la fois difficile et un côté très, très physique et beaucoup plus humain, à la limite, entre guillemets, humain, c'est pas vraiment
avant,
le terme.
Avant MySpace, en fait.
Avant MySpace et Facebook et compagnie. Et c'est vrai que Coste a servi un petit peu de modèle grâce à ses cassettes aux EPE, à pas mal de petits groupes ou de solos qui faisaient leur musique dans leur coin et qui ne savaient pas comment la diffuser. C'est vrai qu'ils se sont rendus compte, après tout, on a un enregistreur cassette. J'ai pas d'argent pour faire des photocopies couleurs, je fais mes pochettes à la main, et d'un seul coup, c'est vrai que ça a fleuri dans les bacs des EPE en particulier, ou à Outsize, ou les boutiques de l'époque sur Paris, et en province. Il a donné l'idée à pas mal de gens, pas l'idée, mais en tout cas le courage à pas mal de gens de mettre en avant ce qu'ils produisaient dans leur petit chez eux. Donc, et par la suite, il a continué sur ce même modèle d'autoproduction, de do-it-yourself. C'est vrai qu'il emploie très peu le mot, lui, alors que ça revient très à la mode, le do-it-yourself, maintenant.
Oui, lui, il va parler plus facilement d'autoprod.
Ouais. Il n'est pas trop dans cette démarche militante du do-it-yourself. C'est simplement, il a fait parce que personne ne voulait de lui. A priori, il présente ça de manière très normale. J'enregistre mes cassettes, je la grave, je fais la pochette et puis je l'avance. C'est tout à fait naturel et pas du tout dans une démarche activement politique. Même si, au final, ça revient à ça complètement.
Bon, et puis comme tu le disais aussi en introduction, il faut imaginer qu'un label aurait quand même une certaine difficulté à suivre la production, puisque au rythme de 6 ou 7 CD par an, on est assez loin effectivement d'une production, on va dire, normale. C'est-à-dire qu'il y a un côté, et on va l'entendre par la suite, c'est extrêmement impulsif. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs, Coste lui-même dit toujours qu'il se réécoute jamais. À la fin, quand le morceau lui plaît, il dit que celle-là elle est bonne à graver. On n'est pas du tout dans une démarche ou dans une volonté d'arriver au morceau calibré, quoi. C'est effectivement très très impulsif. Morceau calibré, c'est le moins qu'on puisse dire.
On s'en rendra compte.
On s'en rendra compte. Voilà, par la suite.
Alors, avec différentes techniques d'enregistrement, il en parle, c'est Jean-Claude Moineau qui en parle après un entretien avec Coste, me semble-t-il, si je ne me dis pas de bêtises, où Coste part parfois, justement, de morceaux très, très construits, très pop, parce qu'il y a une influence Beatles chez lui, qui est quand même
ça,
là.
Ça, c'est le texte de Sophie Diaz.
Ah, de Sophie Diaz, c'est ça.
C'est Sophie Diaz, effectivement, qui a écrit un très beau texte sur son rapport à la musique. Sophie Diaz qui fait partie, je pense, des rares personnes à pouvoir inscrire sur son CV révéler qu'elle connaît effectivement par cœur et parfaitement l'œuvre de Coste, de tous les CD. Et c'est vrai qu'elle a écrit un très beau texte sur la musique de Jean-Louis Coste et sur la manière que Coste a de produire, sur comment est-ce qu'il va chercher à produire, qu'est-ce qu'il va chercher à faire passer, et aussi beaucoup sur ses influences, ou du moins sur ce que l'on peut retrouver dans sa musique et les inspirations que l'on va y retrouver en allant donc de Slayer au White Album, où on va trouver le panel des inspirations de la musique de Coste.
Et plus ça allait justement dans ses goûts musicaux, plus ça était extrême. C'est vrai qu'à une période, il n'écoutait quasiment plus de musique et il s'est tourné vers des musiques les plus extrêmes. Au départ du rap, il a écouté tout de suite le rap le plus hardcore qui existait. Quand la techno est apparue, il a écouté les styles les plus hardcore de techno également. Et il a toujours été assez impressionné par ces gens qui osaient aller au bout d'un style musical. Ça correspondait un petit peu à sa démarche aussi personnelle. Et c'était un peu les seules choses qu'il supportait en musique, hormis ses amours de jeunesse beaucoup plus mélodiques et douces. Et oui, justement, Sophie Diaz parle un petit peu de sa manière de composer, d'enregistrer. Parfois, ça part d'un morceau très carré, très mélodique, très classique, avec couplet-refrain. Et à la fin, il prend sa hache et il coupe dans tous les sens. Au départ, c'était d'ailleurs au sens propre, puisque c'était des bandes qu'il coupait, scotchait, pour déstructurer tout ça. Il rajoute des bruits régulièrement, il double ses voix, etc. Ensuite, il a fait ça plus par ordinateur.
Voilà, c'est partie. Encore une fois, on est dans un rapport... dans une coïncidence dans sa pratique entre l'évolution technologique et ce que lui va chercher à réaliser. Et c'est vrai que le passage du 4 pistes à effectivement l'ordinateur et cette pratique lui a permis d'arrêter effectivement ce qu'il faisait à un moment, ce qu'on va retrouver sur ses premières cassettes, où effectivement il enregistre les quatre pistes qu'il va superposer, où il va avoir une piste de bruit, une piste de son, une piste de parole, une piste de musique et cette manière de travailler. Là aussi, c'était particulièrement intéressant pour nous dans la démarche qu'on avait par rapport au livre de le découvrir. C'est qu'en fait, on est très proche de nombreux courants musicaux et c'est là que se fait assez particulièrement le lien avec toute la musique improvisée qu'on va retrouver aussi par la suite dans certains travaux qu'il va avoir, dans certains artistes avec qui il va collaborer.
Oui, des petites incohérences avec le milieu free jazz.
Voilà, des incohérences dont je ne me doutais pas du tout au début du travail. C'est-à-dire que ça a été des découvertes, effectivement, des inspirations de Eric Dolphy, de Albert Tyler, qui n'étaient pas du tout évidentes, moi, dans la première appréciation que j'avais du travail de Coste, dans la première découverte, dans le cadre aussi dans lequel j'ai découvert, jusqu'à arriver aussi à, effectivement, à ces musiques extrêmement savantes, et comme tu le disais, qui vont croiser de manière très intéressante aussi des mouvements comme, par exemple, le grindcore. Oui. Il est en quelque sorte, et je pense que c'est aussi pour ça que... Pour un historien de l'art, c'était intéressant de voir le travail de Coste, c'est que ça va être le lien, un peu la cheville entre ce qu'il est un peu commun aujourd'hui d'appeler la culture savante et la culture populaire, mais lui va le faire par le biais d'une musique, et tout en restant dans un domaine extrêmement expérimental, avec la base du travail de Coste, ça faut quand même le dire et le répéter toujours, c'est l'expérimentation, c'est voir ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'on peut y trouver ce rapport dégueulasse, crado, que certaines personnes vont voir immédiatement, et c'est normal, parce que ça l'est aussi, mais c'est aussi justement, encore une fois, cette cheville entre deux milieux et ces inspirations qui vont se faire d'un travail sur l'autre, d'une culture à l'autre, en fait, si on veut.
C'est vrai que quand on n'est pas mélomane ou pas très porté sur la technique musicale, même ou l'ingénierie sonique, sonore, ça peut paraître juste du grand n'importe quoi, c'est pas évident. Quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en musique ou en technique se rend compte qu'on est loin du n'importe quoi, que c'est quelque chose d'assez maîtrisé, d'assez osé. Et sur certains morceaux, c'est plus évident que sur d'autres. D'ailleurs, on va en écouter un petit, si Michel, qui est très malade et qui est quand même venu, contrairement à Jean-Mathias, a bien voulu nous faire la technique et va essayer de lancer un morceau. À tout à l'heure.
D'abord, ce que je voudrais dire, C'est pas parce qu'on est des enfants qu'on est des cons attardés, ok? On en a marre de vos chansons pour enfants, de vos conneries pour nier, de vos mélodies débiles et paroles gnangnan remballées. Dans ma tête d'enfant, c'est le même bordel que dans votre tête d'adulte. La même souffrance, la même confusion, la même violence. J'ai l'air d'un bébé mignon, comme ça, ok. Mais au fond, je suis un homme miniature, un homme entier, un homme potentiel, avide et cruel. Un bébé criminel. 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 J'ai un sexe, j'ai des dents, j'ai des griffes, un anus et des rêves pas toujours très jolis. Ok, je ne sais pas grand chose du monde qui m'entoure, mais je connais déjà toutes les bases de la vie. Dans l'utérus, je me suis battu pour ma survie. Je suis le seul rescapé du massacre du sperme. Bébé en vie, je suis forcément criminel et forcément capable de tout pour défendre ma vie. Je crie, je bouffe, je chie. Les trois principes de la vie, j'ai compris. Je crie, je bouffe, je chie. Les trois principes de la vie, j'ai compris. Je crie, je bouffe, je chie. Je bouffe, je chie, et bientôt je pendrai des yeux et j'éjaculerai.
Un bébé criminel.
Arrêtez putain avec vos mensonges à la con. Arrêtez de cacher les sexes honteux et les crimes abominables. Vous croyez pas quand même que ça va m'empêcher de les imaginer? Et vous savez pas qu'imaginer c'est pire que la réalité? Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de prendre les enfants pour des cons. Merde, arrêtez. Des bébés criminels, nous sommes des hommes potentiels. Arrêtez de nous prendre pour de la merde. Arrêtez de cacher les sacs, sont eux les crimes abominables. Parce que j'en ai plein la tête et vous savez pas qu'imaginer c'est pire que la réalité. Respectez les enfants au lieu de les protéger. Respectez les enfants au lieu de les protéger. Et respectez-les vraiment. Respectez-les pour ce qu'ils sont. Ils sont la brève liberté. Ils sont l'homme à l'apogée. Après ils ne seront plus que des adultes handicapés, des vieillards en putain.
Et des cadavres glacés. Et des cadavres glacés.
Respectez les bébés au lieu de les protéger. Respectez les bébés au lieu de les protéger. Et respectez-les pour ce qu'ils sont vraiment. Ils sont l'homme à l'apogée, ils sont la brève liberté. Après ils ne seront plus que adultes handicapés, vieillards en putain. Cadavres glacés. Et cadavres glacés, maman désolé. Cadavres glacés. Cadavres glacés, maman désolé.
Rebonsoir, c'est toujours Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est l'émission Jeudi Noir, les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois. Aujourd'hui, donc, Saint-Valentin, nous faisons une émission spéciale Jean-Louis Coste, donc en compagnie de Léo Guy de Narcy, qui est l'auteur d'un livre sur Jean-Louis Coste qui s'appelle L'art brutal de Jean-Louis Coste. Aux éditions Exposition Radicale. Alors, vous pouvez aller sur le site d'Exposition Radicale, c'est simple, expositionradicale.fr. Voilà. De toute façon, vous retrouverez toutes les références de ce dont on parle, le lien vers le site de Jean-Louis Coste aussi, puis peut-être d'autres sites qui sont assez bien faits, de sites de fans qui sont plutôt pas mal, où on peut trouver des extraits musicaux aussi, sur le site de l'émission Jeudi Noir. Donc, comme toujours, vous tapez gurdulu.org, G-U-R-D-U-L-U, et Jeudi Noir, entre guillemets, et normalement vous tombez sur le site assez facilement. Voilà. On remercie d'ailleurs tous les auditeurs qui téléchargent régulièrement l'émission, il y en a de plus en plus, grand merci. Nous allons donc enchaîner, après avoir présenté un petit peu Jean-Louis Coste, son travail, et écouter certains morceaux. Ah d'ailleurs, on n'a pas parlé du dernier morceau qui vient de parler. Et donc on va enchaîner sur un des participants à ce livre, L'art brutal de Jean-Louis Coste, qui s'appelle Yann Kerninon. Alors juste un petit mot sur le morceau qui vient de passer. Donc c'est Bébé Criminel, sorti sur un CD sous pochette carton, donc là, un vrai CD du commerce, on va dire, un peu plus pro que ces CD FM1, avec quelques titres consacrés aux enfants. Il a voulu faire un disque pour les enfants. C'est comme ça qu'il l'a présenté. Voilà.
Exactement, un disque pour les enfants. Ouais, c'était une de ses ambitions peut-être les plus remarquables. Enfin, parmi d'autres points de vue musique, on en discutait tout à l'heure. Il y a aussi son CD Autour du Rail, qui est une assez belle démarche. Et puis, il faudrait aussi qu'on parle de ses shows. Mais en même temps, c'est vrai que faire 30 ans de carrière en une heure, on va avoir du mal.
Ça va être un peu compliqué.
Faire, faire rentrer.
Rien que son rapport aux enfants, justement, par rapport à ce CD, est très intéressant, parce que les enfants ont toujours été un petit peu au centre de son travail, et même de ses vidéos où il fait jouer des enfants. Il a toujours été fasciné par le côté, entre guillemets, innocent les mains pleines des enfants. Oui, et ce côté spontané, en tout cas.
Ce retour vers l'enfance aussi, qui est quand même une des thématiques que l'on va retrouver chez Coste assez souvent. Et là, c'est pas n'importe quel enfant, c'est un enfant criminel. Et c'est quand même peut-être là qu'est aussi un des points essentiels dont Yann Kerninon évoque dans son travail, parce qu'il y aurait toute une démarche, enfin, ou plutôt tout un rapport aussi de causes dont il faudrait parler, qui sont ces soucis judiciaires, mm-hmm. dont il est question dans l'ouvrage, plus particulièrement dans l'entretien que j'ai réalisé avec Jean-Claude Moineau et dans le texte de Yann Kerninon, sur cette idée d'un artiste criminel, d'un artiste hors la loi, qui est une des figures de Coste, une des figures qu'on va retrouver de Coste dans cet ouvrage. Et le texte de Kerninon revient là-dessus, sur cette démarche que peut avoir Jean-Louis Coste d'exprimer une part maudite. L'idée aussi de revenir sur d'explorer plutôt la connerie humaine, comme l'appelle comme c'est la manière que Yann Kerninon a de nommer justement ce travail de Coste, cette connerie humaine qui serait aussi un retour vers la race, la religion, l'État, tout ce qui va se rapporter à ce qu'on peut percevoir comme un familialisme névrotique que Coste cherche toujours à combattre par son travail, l'affronter aussi par le ridicule. Par son propre ridicule, par sa mise en scène ridicule dans ses performances.
L'exagération, la surexagération.
Voilà.
Et alors, qui est Yann Kerninon, juste avant de...
Alors, Yann Kerninon, c'est un écrivain, philosophe, auteur de plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage sur Coste, Jean-Louis Coste ou Le fou qui est en nous, qu'il avait publié aux éditions...
L'âne qui butine, en 2011.
Merci, oui. Et par la suite, la tentative d'assassinat du bourgeois qui est en moi, qui était sorti chez Libella, et plus récemment, le titre m'échappe, de son exploration d'un univers amoureux. Mais alors là, ce n'est pas exactement ça le titre, mais ça se rapproche de ça. Et Yann Kerninon, donc, qui avait travaillé autour de cette figure de l'assassinat du bourgeois qui est en lui et qui est en nous. C'est un peu cela dont veut parler Yann Kerninon. Reprend un peu cette thématique à travers la figure de l'artiste hors la loi, cette figure de l'outlaw qui serait celle de Coste, l'une des figures de Coste, oui. Le rapprochant aussi bien d'artistes du mouvement Dada,
du blues,
également, et cette idée que Yann Carninon explore dans le texte, c'est aussi ce rapport à ce que serait un langage performatif dans les termes de l'art, et comment est-ce que la mise en procès de Coste par rapport à certains textes, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que l'affaire de ce que l'on pourrait appeler l'affaire Coste judiciaire est une affaire compliquée sur laquelle il y a assez
de multiples rebondissements.
Toujours est-il que le travail de Coste, lorsqu'il s'est retrouvé en procès, soulignait en fait cette idée du ce rapport à un langage performatif que l'on peut avoir par rapport à l'art, ou du moins c'est comme ça qu'il peut être intéressant de le percevoir. Ou comment est-ce que à un moment il serait d'autant plus ridicule de reciter certaines paroles de chansons au sein d'un espace institutionnalisé pour chercher justement, ou plutôt pour demander une forme de justification par cette citation, qui serait typiquement, prenons un exemple, il faudrait tout d'un coup expliquer qu'il n'y a pas d'inégalité entre les races et se retrouver au sein d'un tribunal pour expliquer qu'il n'y a pas d'inégalité entre les races. C'est déjà le reciter et donner d'une certaine manière aux fachos, aux fanatiques, une raison de plus de réentendre ce discours et d'avoir à l'assimiler. Voilà, Yann Carninon revient notamment là-dessus dans son texte, cherche à percevoir plutôt à voir le décalage qui est complet entre justement cette demande de l'institution et la position de l'artiste, cherchant justement à retrouver dans l'artiste une personnalité judiciaire, quelqu'un auquel on pourrait se retrouver, enfin quelqu'un à qui on pourrait demander justement des explications.
Peut-être dire deux petits mots du procès pour resituer, parce que ceux qui ne voient ils vont avoir du mal à suivre. Juste simplement le début, parce que les rebondissements, peu importe, vous trouvez ça sur Internet, sur le site de Jean-Louis Coste en particulier, où il y a différents textes à ce propos. Au départ, c'était à propos d'un de ses textes publiés sur Internet, donc sur son site, coste.org. C'était un texte de chanson de l'album Livrer les Blanches au Bico. Donc, dans cet album-là, il se met un peu dans la peau d'un personnage très raciste, et il tient des paroles vraiment outrancièrement racistes, mais à un point que c'en est grand guignolesque, hein. Il va dire que c'est pas les chiens qui font caca dans la rue, mais c'est les Arabes, enfin ce genre de propos complètement plus que ridicule, où il se met il essaie de démonter les mécanismes du racisme en pointant un peu leur absurdité, si on peut dire ça de manière un peu théorisée, même si dans son travail, il y a un côté spontané et lâché, un peu moins carré que ça. Et donc, il avait publié une partie de ces textes-là sur Internet, et là-dessus, l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, intenté en procès, parce qu'il y avait propos antisémites, appel au meurtre, différentes choses comme ça. Et le procès a tourné beaucoup autour de questions techniques sur le fait que les textes en ligne allaient peut-être tomber peut-être sous le coup de la quand ce n'est plus valable le terme juridique. Que trop de mémoire ce soir. Enfin, peu importe, c'était très technique. Et une autre partie du procès, c'était sur le fond. Voilà. Et donc, il a fallu, à ces procès-là, citer ces textes, comme tu disais, devant un auditoire composé de gens qui venaient soutenir Coste et d'une partie de l'UEJF. C'était assez surréaliste. C'était très, 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 très curieux comme ambiance. Voilà pour la partie procès. Je vous invite vraiment à aller voir le détail sur Internet. Vous tapez procès Jean-Louis Coste et vous allez voir les multiples rebondissements. Alors Yann Carninon, il ne parle pas que de ce procès. Il s'entrouvait justement sur le bourgeois qui est en nous.
Exactement, sur cette démarche, la démarche artistique qui va être celle de Coste, notamment cette démarche par le biais du show et de la performance, la sortie de la sortie de soi-même qu'opère Coste dans ses spectacles. D'ailleurs, on peut peut-être anticiper un tout petit peu sur ce que vous voulez évoquer plus tard avec le rapport de Coste avec Jean Rouch et les Maîtres Fous.
Oui, tout à fait.
Puisque l'une des références récurrentes de Coste, c'est ce film, ce documentaire de Jean Rouch, Les Maîtres Fous, où effectivement on va retrouver à travers cette tribu un culte, une sortie complète de soi, une rupture,
une transe
qui est une rupture complète entre la vie quotidienne et ce moment, cette célébration, ce rituel des Aoukas. Et le travail de Rouch autour de cette tribu et de ce rite revient vraiment sur la fracture entre le quotidien et le rituel. Et comment est-ce qu'à un moment il est possible de sortir complètement de soi? C'est assez fascinant à voir, le documentaire en lui-même, et de le retrouver comme une référence de Coste, c'est aussi très intéressant et très éclairant sur la démarche qui va être la sienne. Et sur cette volonté de dépasser les apparences, de dépasser celui que Yann Carninon va appeler le bourgeois qui est en nous, ou encore on pourrait y voir effectivement cette figure du guignol, du carnavalesque. Y retrouver aussi des références de Batkin qui ne sont pas loin quand on parle de ça. Et le travail donc autour de Jean Rouch et justement de comment est-ce que l'on peut accéder à cette imagerie va être peut-être le plus directement visible dans une vidéo dont certains extraits sont reproduits dans le livre Vaudoublant. Voilà. Là où on va retrouver une évocation directe du titre de Jean Rouch. Et donc dans cette vidéo qu'on peut découvrir, effectivement, on va se retrouver dans une tentative de transe collective et communautaire, une vidéo qui va justement chercher à arriver à ce moment-là, à travailler jusqu'à une espèce d'épiphanie qui pourrait y avoir un moment. Et je vous laisse découvrir dans le livre ce qui peut arriver derrière, ou justement ne pas arriver.
Voilà, alors ça c'était une des expérimentations de Coste au niveau des shows, parce que tous ne sont pas comme ça, justement. Là, c'était vraiment une voie qu'il a voulu explorer, comme il en a exploré d'autres. Il a exploré parfois la voie du gros bordel, avec un scénario tellement mince que ça partait en live complet et les choses n'étaient pas maîtrisées, mais c'était pas vraiment de la transe. La plupart sont très construits, la plupart de ces shows. Bon, il n'en fait plus maintenant. On pourra parler un petit peu de ce qu'il fait maintenant. Sont très construits, sont des pièces de théâtre, des opéras, hein, puisque c'est à moitié musical, à moitié joué, hurlé. Mais c'est, voilà, il a été parfois seul en scène, mais souvent accompagné d'autres acteurs performeurs. Et bon, chacun a du texte, il y a une bande son qui passe derrière, il y a des parties en playback, il crie, donc c'est très 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 construit, avec une apparence de désordre total, une maîtrise des différents objets. Alors c'est assez intéressant dans le livre aussi, ce sont les photos d'objets. D'ailleurs, oui, on en parle un petit peu dans le livre. Est-ce qu'on peut faire un inventaire des différents objets? Est-ce qu'il peut y avoir une mémoire de l'objet? Bon, je vous laisserai découvrir ce texte-là. Et sur scène, il se retrouve donc avec des objets par dizaines, dont certains qui peuvent être un petit peu dangereux, mais il y a une maîtrise totale pour ne pas se couper. Voilà. Pour maîtriser le public qui parfois un peu trop bu ou n'importe quoi essaie de s'incruster, essayer à la fois de ne pas empêcher le public de venir et ne pas arrêter le show en plein milieu, parce que bah, il y a une histoire qui est écrite et qui doit aller jusqu'au bout. Voilà. Au niveau des shows, c'est ceux qui ne l'ont pas vu, malheureusement, je crois qu'il n'en fait plus. Michel nous dit qu'il est très tard et qu'on va passer un petit morceau. Bon, bah c'est bien. Est-ce qu'on passe Négro n'est qu'un mot, partie 2?
Mort à la deux balles.
Ah, mort à la deux balles, alors c'est pour nos amis socialistes.
Ils mettent de la vaseline pour nous enculer à fond. Nous, c'est pour votre bien, les gars, que je fais ça.
Ah, nos femmes violées, nos enfants torturés, les impôts à payer, le RMI à toucher. Ah, et pour détourner notre colère légitime, pour cacher leurs crimes, ils dénoncent nos ennemis intimes. Le FN distille, menace la liberté. Mais que pèsent les milices face aux flics français? L'Amérique distille, veut nous avaler. Mais combien coûte l'appartement de Jean-Pierre Chevènement? Les multinationales menacent le national. L'enquilleur national fait moins mal que l'international. N'hésitez pas à convaincre, y'a la télé pour convaincre et l'armée pour nous vaincre. Les banques, les flics, les partis, les médias, tout est bien verrouillé, difficile de bouger. Propagande officielle, des mythes, ça engueule. Vive le socialisme contre le capitalisme. Mais je me fous de vos conneries. Je regarde dans ma poche, je regarde dans ma rue, et je ne vois que des trous dans ma peau. Je regarde dans ta main, je regarde dans tes yeux, et je ne vois que des trous dans tes yeux. Je regarde dans leurs yeux, je regarde dans leur bouche, et je ne vois que le vice et le dentiste. Le dentiste à 10 000 balles, les vacances à 100 000 balles, et la morale à 2 balles. La morale à 2 balles. La morale à 2 balles.
La morale à 2 balles de la racaille sociale.
Oui, c'est toujours Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, mais avec un invité aujourd'hui, Léo Guy de Narcy, pour son livre L'art brutal de Jean-Louis Coste, aux éditions Exposition Radicale. Vous pouvez aller sur expositionradicale.fr pour voir à quoi il ressemble. Donc un ouvrage consacré à Jean-Louis Coste, dont on parle depuis maintenant trois quarts d'heure. Il nous reste en gros une petite dizaine de minutes, et puis on va écouter aussi un peu de musique, parce que vous avez entendu ce morceau, c'est quand même du miel pour les oreilles, hein, on peut dire. Donc voilà, c'est un morceau qui date du temps de Jospin, hein, ces quatre exécutions sommaires où il souhaite abattre les socialistes un par un, parce que c'est trop idéaliste à son goût. Coste chantre de l'anti-idéalisme. Et justement, l'anti-idéalisme, pour lui, c'est symbolisé par le caca, hein, quand même.
La scatosophie.
Voilà.
Sa grande scatosophie. Mais combien coûte l'appartement de Jean-Pierre Chevènement?
On n'a toujours pas la réponse.
On n'a toujours pas la question. On a toujours la question, plutôt. Le caca, ouais, le caca, c'est une partie, certes non négligeable de son travail. En même temps, lorsque je l'avais rencontré pour un premier entretien, un peu sur les travaux préparatoires du bouquin, évidemment, comme tout le monde, j'avais commencé par réparer ça. Il m'avait dit, en même temps, j'ai pas fait autant d'œuvres que ça comparé au temps que j'ai passé aux chiottes, oui, dans une vie. Et c'est vrai que la remarque, on n'en parle pas tellement par rapport au temps qu'on y passe. Non, il y a une pièce, l'opéra sur le caca aux chiottes, qui reste un des éléments centrales de sa carrière, un moment important plutôt, et qui est notamment représenté dans le livre à l'échelle de ce qu'il est, de ce qu'il a été dans son aspect complet. C'est aussi une des pièces qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Mm-hmm. Quand le show avait commencé, cette idée, cette présence plutôt des excréments de dans le travail de Coste, c'est aussi, encore une fois, un rapport très certainement au ridicule, un attrait aussi pour cela, pour ce que ça peut représenter, ce que ça peut générer. En même temps, les excréments, c'est aussi quelque chose qui, on va dire, dans la création générale, est très présent. Le rapport à l'excrément, à ce que l'on peut en faire, ce que ça peut représenter. Marcel Duchamp lui-même a fait beaucoup de pièces autour de ça. C'est sûrement pas pour rien non plus aussi s'il a fait un urinoir. Hein. Donc ça resitue aussi la position du chiotte dans l'art. Et c'est vrai qu'avec ce chiotte aussi qu'on retrouve dans le livre au début et à la fin, juste le temps qu'il lui faut pour se remplir,
oui.
ça donne aussi ce rapport à ce que l'on peut chercher à lui faire dire. Et puis en même temps, c'est aussi le lieu de l'intime par excellence, cette part intime qu'on pourrait faire ressortir, une manière de s'écorcher en s'y montrant, en s'y présentant. Et pour ça, cette transgression que va toujours chercher à titiller Coste, à aussi repousser au plus loin, c'est aussi une transgression dont on parlait tout à l'heure hors antenne entre la salle et la scène, cette volonté à un moment de rompre la distinction qui peut exister entre les deux, notamment à travers un exemple qui encore une fois est un geste selon moi de moderniste par excellence, qui est quand Coste, et l'image est dans le livre, quand Coste rentre dans la salle et chope un critique musical qui était là à ce moment-là, qui va ligoter au poteau des EPE et laisser là pendant qu'il sera en train d'hurler libérez-moi pendant tout le reste du show. Et Coste, un peu comme s'il avait en fait sa première son premier cœur vivant dans un de ses concerts, puisque ça venait s'ajouter sur sa musique, jusqu'à faire un fond sonore qu'il allait intégrer ensuite dans sa partition musicale. On n'a jamais trop su, encore une fois, si c'est une mythologie, si c'était quelqu'un qui travaillait avec lui. Et là, on aurait aussi toute une autre émission à rechercher sur le travail de Coste, sur cette distinction entre le vrai et le faux,
oui.
Entre la mythologie de l'artiste, dans un sens un peu benjaminien, quoi, et la position réelle de ce qui lui est arrivé. Le jeu entre le vrai et le faux, chez Coste, c'est encore un mystère, un art du mystère aussi.
Et puis avec, c'est vrai qu'il attire un public très de vrais fans, et ce qui fait que justement ce côté faux, rumeur, etc. se propage, démenti une fois, et puis pas l'autre, plus ce qu'il met lui-même en scène. Et bon, en gros, on donne l'impression qu'il met en avant ce qui arrange au moment où il le dit, tout simplement, et que ça a assez peu d'importance finalement, ce qui s'est réellement passé ou pas.
Oui, qu'il en joue, oui.
Complètement, oui.
Comme quand il a commencé à me faire... Ce geste pour une vidéo aussi où il aurait mis le feu à une partie de l'Amazonie dans sa maison en Guyane, cette vidéo Repentir où il incendie une partie de la forêt guyanaise, paraît-il qu'il a été obligé de partir se cacher dans la jungle pendant plusieurs jours parce que il y avait plusieurs tribus qui voulaient sa peau.
Il le raconte de manière très convaincante
suite à l'incendie qui est... Oui, encore une fois, c'est un jeu sur la un jeu sur le mythe et sur la mythologie qui va produire autour de son travail. Toujours est-il que la vidéo Repentir rend compte effectivement de cet incendie en Guyane qu'il a provoqué. Plaisir, repentir, c'est les mots qui sont dans cette vidéo. Et c'est encore toujours ce geste, cette transgression, ce passage du privé au public, ce jeu entre sa manière de faire de l'art, parce que c'est quelqu'un qui est dans le faire, vraiment dans la pratique artistique à tous les instants, et effectivement une vie quotidienne qui va chercher à ponctuer avec ça. L'un des autres exemples dont on a parlé précédemment, c'est effectivement ces cassettes, ces déclarations d'amour, cet art on ne peut plus intime qu'il a adressé à Lisa Sugdog, jusqu'à ce que ça devienne effectivement une cassette commercialisée, Songs of Love and Masturbation, les chants d'amour et de masturbation qu'ils ont fait, s'échangeant des cassettes sous forme de déclaration d'amour, et avec aussi toute une magnifique partie sur Gigi Allin, mais oui. Ça aussi c'est une autre Gigi Allin, c'est aussi une autre un autre thème qu'il faudrait aborder, mais je crois qu'on n'a pas le temps de parler de tout ça.
Ça va être un peu court, ça, c'est une mise à nu permanente, on peut dire, le travail de Coste. L'intime devient public en permanence, sur le caca, où il avait dit qu'il avait enregistré pendant un an tous ses pets, et puis qu'après il avait effacé, ou je ne sais plus ce qu'il en avait fait, juste, pour, je pense, pour le plaisir de le dire, et d'être dans la mise à nu.
C'est chaque fois différent.
Ouais. Bon, mise à nu physique, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça aussi. Ceux qui n'ont pas d'image de ces shows, ça vaut le coup de voir ces vidéos. Alors voilà, il y a de la nudité, il y a du caca qui est du faux caca, c'est du benko balancé sur du PQ, il y a du faux sang, c'est de la sauce tomate.
Est-ce que c'est du benko, t'en es sûr?
On sent assez vite à l'odeur. Ah, voilà. Oui. C'est peut-être une sous-marque. Mais beaucoup de gens sont un peu déçus en pensant que c'est de la scatophilie vraie. Bon, alors, à l'heure actuelle, puisque là on a plus que quelques minutes, on va réécouter un petit peu de musique quand même. Donc à l'heure actuelle, il fait des shows uniquement musicaux, donc sans nudité, où il est seul sur scène avec son synthé, où il chante. On va pouvoir le voir dans pas longtemps, au mois de mars. Alors j'ai plus la date sous les yeux exactement, je crois que c'est le 8 ou le 18 mars, en tout cas aux Instants Chavirés. Allez sur le site des Instants Chavirés, cette superbe salle à Montreuil, avec un excellent son et une équipe très sympathique, ça vaut le coup d'y aller. Il y aura également Damien Schultz à ce concert, et Casio Judiciaire, voilà, donc ça, on sera là-bas, hein, ça vaut le coup d'y aller. On va écouter un petit peu de musique pour terminer, je crois. Pardon ? Je crois qu'on a le temps d'écouter deux morceaux, oui. Peut-être les conseils de maman et peut-être un autre parce que c'est très court. En tout cas, on va remercier Léo Guy de Narcy qui est venu nous présenter L'art brutal de Jean-Louis Coste aux éditions Exposition Radicale. Allez sur gurdulu.org jeudi noir, le site, vous aurez toutes les références. À dans deux semaines, on ne sait pas de quoi on va parler.
J'en ai rien à foutre. Que ce disque soit chiant et répétitif. J'en ai rien à foutre, je vous emmerde, ok? De toute façon, qui c'est qui l'écoutera, mon disque? Personne ne l'écoutera jamais, alors j'en ai rien à voir, let's get sick! De toute façon, j'en ferai jamais que deux exemplaires, un pour moi et un pour ma mère! Moi, je l'écouterai jamais, mon exemplaire! Et ma mère!
je continuerai à pleurer dedans.
Maintenant je suis un mec, ok? Alors fini les pornicheries, hein? S'il y en a un qui est pas content là, il dégage, il fait chier mon disque, il fait chier mon disque, et ben casse-toi et m'emmerde pas, ok?